Elle est avec nous ce matin, Maud Émilie Méthotte, kinésiologue pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour Maud Émilie.
Bonjour tout le monde.
Voilà. Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Là, aujourd'hui, bon, quand tu m'as nommé le sujet de la chronique, je n'étais pas trop certain où c'est qu'on s'enlignait. Tu me l'as expliqué. Très hâte d'entendre. Ça risque d'être.
Je comprends pas plus.
Ouais, non, je comprends un peu plus. J'ai hâte d'avoir un peu plus d'informations. On va parler d'éducation croisée.
Oui. Là, ouais, c'est ça. C'est un peu drôle comme.
Explique-moi.
Oui, c'est ça. Comme titre, puis ça n'a pas rapport avec l'éducation comme telle, comme l'enseignement. Là, okay?
OK.
Donc, c'est une traduction qui est peut-être un peu pas bof là, de l'anglais qui nous vient du terme cross-education effect.
Okay.
Donc, on va aborder justement qu'est-ce que c'est cet effet-là. Donc, d'abord, il faut dire que la perte de force musculaire peut être un des effets négatifs les plus préoccupants quand il est impossible de bouger une partie de son corps pour une période de temps. Fait que, par exemple, ça peut être impossible de bouger un bras si on a une blessure ou on a une maladie. Hein?
Mm-hmm.
Cette restriction-là, ça peut être présent pour quelques semaines, mais parfois plusieurs mois. Puis l'immobilisation d'un membre, ça peut causer une diminution de la force et une perte de masse musculaire. Puis ces effets-là, ça peut avoir un impact là, assez important sur le quotidien des gens en rendant certaines activités de la vie de tous les jours plus difficiles. Par exemple, quand on parle d'hygiène, d'entretien de la maison, de transport de charge et de déplacement là, carrément. Donc, tout dépendamment du... si c'est un bras, si c'est une jambe qui est immobilisée, ça a des impacts qui sont différents. Donc, justement, il a déjà été établi dans la littérature que le fait de gagner de la force musculaire dans un membre en raison d'un entraînement en résistance, donc si je fais de la musculation, ces gains-là peuvent être transférables à l'autre membre, même si je ne l'entraîne pas.
OK.
OK? Donc, si j'entraîne mon bras gauche et que je n'entraîne pas mon bras droit parce qu'il est immobilisé, par exemple, les gains que je fais avec mon bras gauche vont pouvoir se transférer du côté droit.
Ah, OK.
C'est ça l'effet d'éducation croisée, ce fameux cross-education effect. C'est ça. OK? Donc, ça, on sait que ça existe déjà. Ça a été rapporté dans la littérature. Par contre, ce qu'on n'est pas certain, puis c'est ça qu'il y a un groupe de chercheurs de l'université Edith Cowan s'est posé la question, en fait, c'est s'il y avait un impact spécifique des différents types de contractions musculaires, à savoir s'il y a un type de contraction musculaire qui est plus efficace pour favoriser l'effet d'éducation croisée. Donc, c'est quoi les différents types de contractions musculaires? Il y en a trois. Il y a la contraction musculaire concentrique. Ça, c'est quand, par exemple, si on prend mon bicep, là, parce que justement, le sujet de l'étude, ça va être le muscle du bicep.
Mm-hmm.
Donc, si je prends mon bicep, puis que je viens mettre mon coude à 90 degrés et que je plie vers le haut, ça, c'est ce qu'on appelle une contraction concentrique. Parce que quand je plie mon coude, les fibres de mon bicep vont se contracter et vont se raccourcir. Donc, on est dans le sens naturel du mouvement et du muscle.
Okay?
Deuxième type de contraction, c'est la contraction excentrique. Donc là, si je remets mon coude à 90 degrés et que doucement je déplie puis que je retiens ma charge, donc là, mes muscles vont être en contraction excentrique parce qu'on va avoir un allongement des fibres musculaires.
OK.
OK? Et finalement, si j'ai une contraction isométrique, ça, c'est si je garde mon muscle à 90 degrés, que j'ai un poids et que je maintiens cette position-là. Donc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'allongement ou de raccourcissement des fibres. On maintient la taille du muscle comme elle est.
OK.
Donc, ça, c'est les trois types de contractions. Et aujourd'hui, dans l'étude, on va parler de la contraction concentrique et de la contraction excentrique. Donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont recruté 36 jeunes hommes sédentaires et ils ont immobilisé leur bras non dominant. Donc, si les gens étaient droitiers, ils immobilisaient le bras gauche, par exemple, à l'aide d'un plâtre au niveau du coude pour une période de 3 semaines quand même. Faut être game, hein? D'être immobilisé pour la science pendant 3 semaines. Chapeau à ces personnes-là.
Moi, honnêtement,
Oui, c'est ça. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont séparé les participants en 3 groupes. Il y avait un groupe contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas du tout d'intervention. Il y avait un groupe de contraction concentrique, un groupe de contraction excentrique.
Okay.
Et là, le protocole voulait que les participants fassent des séances de renforcement à raison de 2 séances par semaine pendant 3 semaines. Donc, ils ont fait seulement 6 séances d'entraînement. OK?
OK.
Et, ils faisaient des contractions tout dépendamment le groupe qu'ils étaient. OK? Donc, il y avait une augmentation progressive de la charge.
Mm-hmm.
Il y avait des tests qui avaient été faits pour déterminer c'était quoi la force maximale des participants. Puis après ça, on partait de 20 % de la charge maximale tolérée puis on montait jusqu'à 80 % au bout de 3 semaines. Donc, les résultats sont assez intéressants. Honnêtement, j'ai été vraiment surprise. Donc, lorsque les chercheurs ont retiré les plâtres après 3 semaines, le groupe de contrôle a eu une perte de 15 % de sa force musculaire, okay. Alors que le groupe de contraction concentrique a eu une perte seulement de 4 % oh, wow. Et que le groupe de contraction excentrique a eu un gain de 4 %
Wow.
Donc, okay. Intéressant. Au niveau de la taille du muscle, le groupe contrôle a eu une perte de 12 % alors que le groupe de contraction concentrique a encore perdu 4 % mm-hmm. et qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la taille du biceps chez les gens qui faisaient la contraction excentrique. Finalement, la dernière partie de l'expérimentation voulait que les participants réalisent 30 contractions excentriques avec leurs bras immobilisés tout de suite après le retrait du plâtre. Donc, le bras qui n'a pas bougé pendant 3 semaines, on le mettait à l'effort tout de suite. Donc, le groupe contrôle a rapporté vraiment des courbatures qui étaient sévères, puis une perte de force importante. Mm-hmm. Le groupe concentrique a rapporté moins de courbatures, moins de perte de force. Puis si je compare avec ces deux groupes-là, ben mon groupe excentrique a rapporté 80% moins de courbatures que le groupe contrôle,
okay.
Puis 40% moins de courbatures que le groupe qui faisait quand même les contractions concentriques. Donc, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est que on voit quand même que l'effet est transférable puis qu'il semblerait y avoir un lien important, surtout avec la contraction excentrique, là, hein, où est-ce qu'on est en allongement des muscles. Ce qu'il va falloir vérifier, par contre, c'est si les résultats de cette étude-là peuvent être étendus à une population différente que des jeunes hommes.
Des jeunes hommes.
Oui, voilà. en santé sédentaire. Ouais. Est-ce que c'est la même chose chez les femmes, par exemple?
Mm-hmm. Ou chez les personnes du bel âge.
Oui, voilà, on le sait pas. On va falloir aussi comparer quand il va être question là, de vraies blessures, par exemple des entorses, des déchirures, des fractures, ou après une opération. Parce que là, c'était rien de réel. Hein. On a juste mis un plâtre à quelqu'un qui n'avait pas de problème.
C'est ça, exactement.
Et finalement aussi, si on peut étendre à d'autres groupes musculaires que les biceps. Donc, si j'ai, par exemple, une fracture au niveau de mon fémur, au niveau de ma cuisse, est-ce que si j'ai un plâtre, ben ça va pouvoir m'aider si j'entraîne de l'autre côté? Par contre, les chercheurs sont d'avis quand même qu'il est possible de recommander la pratique d'exercices de renforcement, surtout lorsqu'on va chercher des contractions excentriques, lorsqu'on veut minimiser les effets négatifs d'une immobilisation, surtout le plus long elle est, le plus important, ça va être de renforcer l'autre côté pour justement avoir quand même un petit transfert ou éviter en fait toute perte là, au niveau de notre masse musculaire qui va être immobilisée.
Et de là, l'importance, quand on dit, là, même quand on est blessé, il faut faire ces exercices-là, là, c'est important. Tu sais, ton autre jambe, il faut que tu la renforces quand même. C'est vrai que c'est important.
Oui, puis honnêtement, là, avant de lire ce papier-là, moi, j'avais dans la tête que si j'entraînais juste un côté, j'allais déséquilibrer mon autre côté.
Oui.
Hein? Parce que c'est un peu ça qu'on a en tête, là, honnêtement. On se dit, ben là, j'en ferai pas parce que
après ça,
ben,
ça
je vais être inégal.
Comme un boy, là,
ouais,
avec un gros bras, un petit bras.
Ben oui, mais finalement, en tout cas, semblerait pas. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine. Puis c'est quelque chose que je fais quand même intuitivement. Là, je recommande aux gens de bouger, même s'ils sont immobilisés d'une certaine façon, là, ce qu'ils peuvent faire. Mais vraiment, là, on voit quand même qu'il y a une base dans la littérature qui nous encourage à le faire. Puis surtout, justement, d'aller vérifier avec certains types de contractions si on ne peut pas avoir un effet, une plus-value, ben je pense que c'est super intéressant.
C'est quand même un contenu quand même assez touffu. Alors, je vais inviter nos auditeurs à aller sur la plateforme web pour aller réentendre cette chronique s'il y a des petits détails qui leur ont échappé. Moi, Démilie, un gros merci de ta présence et on te retrouve avec plaisir la semaine prochaine, comme d'habitude.
Merci beaucoup. Bonne
semaine. Merci, bye-bye.